Bienvenue dans cette émission du 1er février 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde. Je reviendrai dans cette émission sur les auditions devant le Sénat américain des futurs membres du cabinet de Donald Trump, ainsi que sur la première émission consacrée par Candace Owens dans sa nouvelle série portant sur Brigitte Macron. Et vous savez que mon travail n'est pas tant d'apporter de l'information, il y a déjà un ensemble de médias indépendants qui le font fort bien, mais de proposer des perspectives, c'est-à-dire de faire des liens entre les événements. Et en l'occurrence, nous vivons un moment extrêmement chaud aux États-Unis, mais d'où peut venir le salut dans le reste du monde? Il faut comprendre que nos pseudo-démocraties européennes sont aujourd'hui complètement sclérosées, et comme je l'avais indiqué très tôt dans ce qui était l'ancêtre de cette chaîne, puisque je proposais déjà une revue de presse hebdomadaire en vidéo dès l'été 2022, j'avais indiqué mon sentiment que le salut, s'il devait venir de quelque part, viendrait des États-Unis, et j'ai l'impression qu'il est en train de se profiler. En tout cas, des perspectives nous laissent espérer en la matière. En rappelant bien sûr que aujourd'hui même marque le 5e anniversaire de la crapulerie absolue d'Anthony Fauci, qui, souvenez-vous-en, avait magouillé pour camoufler l'origine probable du virus par expérience de gain de fonction et avait soudoyé des scientifiques pour qu'ils publient une tribune dans des prestigieuses soi-disant revues médicales, mais qui en fait sont profondément corrompues pour nier la possibilité de cette éventualité. Et puis, 5 ans plus tard, c'est, semble-t-il, l'occasion d'un début d'examen de conscience pour les médias collabos. À l'instigation d'une téléspectatrice que je remercie, je ne vais plus parler de médias prostitués, parce que les prostituées sont, dans leur immense majorité, des personnes tout à fait honorables, alors que les médias ne le sont plus du tout, et donc il faut bel et bien parler de médias collabos. Et la RTBF, par exemple, nous gratifie d'une série 5 ans de Covid-19. Aurions-nous pu faire autrement? Ben tiens. Sauf que, évidemment, qu'ils passent comme chat sur braise sur les conflits d'intérêts et les intérêts auxquels ils sont eux-mêmes inféodés. Cela dit, cela bouge fort aux États-Unis puisqu'une purge est en cours jusqu'au sommet du FBI. Je vous donne un extrait d'une intervention d'une journaliste sur MSNBC, qui est une chaîne profondément corrompue elle aussi, avec une traduction de ADNM que je remercie, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui font un extraordinaire travail de sous-titrage et de traduction en ligne, notamment Sylvia Miami, ADNM, il y avait bien sûr Jeanne Traduction, Black Band, enfin merci à vous tous qui nous donnez du matériau que nous pouvons ensuite repartager avec les personnes intéressées à mieux comprendre les choses. Et voici comment cette présentatrice annonce, bien sûr avec l'air consterné, le fait qu'il y a un ménage qui est en train d'être fait dans ce FBI qui n'est plus aujourd'hui qu'une officine aux mains de l'État profond, d'où évidemment les informations en question.
As I noted right before the break, on another piece of breaking news tonight here in the nation's capital, where the Trump administration has conducted an unprecedented purge at the top levels of the FBI. Unprecedented. Administration officials have forced out all 6 of the FBI's most senior executives and multiple heads of various FBI field offices across the country.
Alors bien sûr, ceci est en lien aussi avec les auditions que je vais résumer à votre attention dans un instant. Il faut se souvenir de la liste de manipulation de l'opinion publique auxquelles se sont livrés des membres des agences à 3 lettres, notamment CIA et FBI. Par exemple, en faisant croire à une collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans le cadre de la première campagne électorale victorieuse de Donald Trump, c'était une crapulerie, c'était un coup monté, c'était une escroquerie. Enfin, toujours est-il que les membres des agences en question l'ont fait croire. Ensuite, pour la pseudo-invasion du Capitole le 6 janvier, c'était à nouveau un coup monté. Enfin bon, la liste est extrêmement longue. Et donc, le président Trump vient de suspendre 51 agents de la CIA, en l'occurrence, qui avaient prétendu à tort que l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, bourré de contenu qui établissait la criminalité du clan Biden, était une opération russe visant à disqualifier Joe Biden, alors qu'en réalité, tous ces éléments d'information étaient véridiques. Et je rappelle que 51 officiers de la CIA avaient signé une lettre disant « c'est une manipulation des Russes », ce qui était parfaitement mensonger. Et actuellement, il y a un énorme coup de balai dans toute toutes les différentes officines de l'État profond et des agents du FBI sont escortés physiquement jusqu'à l'extérieur des bâtiments. Et voyez, Kash Patel, qui est pressenti pour reprendre la tête de l'agence, dit ceci n'est que le début d'un processus de nettoyage du marais, c'est comme ça qu'il l'appelle en anglais, c'est vraiment le marais putride, le marécage. Ça n'est que là, le début des opérations, vous n'avez encore rien vu. Il y a des jours glorieux qui s'annoncent. Je me permets de mentionner que ce compte, Kash Patel News, est un compte authentique. La plupart des comptes que vous voyez sur X avec News après le nom d'une personnalité sont des comptes qui ne sont pas authentiques, qui sont faits soit par des fans, soit par des personnes qui ont l'intention de désinformer. Mais en l'occurrence, le compte de Kash Patel News est quant à lui parfaitement authentique. Dans la foulée, Donald Trump vient d'interdire à l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, l'accès à tous les buildings fédéraux, tous les immeubles, y compris ceux de la CIA, bien sûr, et le général Flynn, qui est un observateur extrêmement sagace et qu'il vaut la peine de suivre parce qu'il donne énormément de tuyaux. Il a été un conseiller proche de la sécurité de Donald Trump pendant les premières années de son premier mandat. Et lui, il vient de dire très clairement que Barack Obama et John Brennan, donc l'ancien directeur de la CIA, sont en train de conduire une opération de renseignement et de services secrets de sabotage à l'intérieur du gouvernement fédéral d'une manière criminelle contre l'administration Trump et donc, bien sûr, le peuple américain, puisque la victoire électorale de Trump a été absolument spectaculaire. Dans le même temps, on a la confirmation, bien sûr, de la criminalité à très haut niveau, c'est-à-dire vraiment à un niveau mafieux du clan Biden, et vous voyez qu'il est en train de sortir, enfin, que Joe et sa famille ont reçu plus de 30 millions de dollars d'oligarques étrangers. L'évidence, c'est-à-dire les données probantes, les preuves de leur implication sont en train de s'accumuler, les flux financiers sont en train d'être mis en lumière et le peuple américain s'éveille. Kash Patel, dont on commentera l'audition dans un moment, lui résume les choses d'une manière synthétique en disant « il déteste Donald Trump ». Parce que ce n'est pas lui qui a généré la haine des démocrates à son encontre, mais il l'expose au grand jour. Il n'a pas créé le parti pris des médias, mais il l'expose au grand jour. Il n'a pas généré ou créé la corruption au sein du FBI, de la CIA et du département de la justice, mais il l'expose au grand jour. Il n'a pas créé l'État profond ou le marécage, mais il l'expose au grand jour. Il n'a pas créé la corruption dans les deux principaux partis politiques, démocrates et républicains, mais il l'expose au grand jour. Et puis vous voyez un commentaire sur X de quelqu'un qui dit « La meilleure manière de faire opposition, de mettre en échec la propagande des médias mainstream contre Trump, c'est de transmettre des liens sur l'information et les vidéos sur la plateforme X », à quoi Elon Musk répond absolument, et c'est bien sûr le travail dans lequel nous sommes engagés. Alors pour saupoudrer un peu ce moment évidemment de tension extrême, de considération supplémentaire, savoir que le conseil de la ville de New York vient d'adopter une résolution pour dénoncer la couverture toxique de la version officielle du 11 septembre des attentats qui ont détruit le World Trade Center. Cela fait 23 ans que les pompiers, les survivants, les forces de sécurité exigent de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Et il est évident que la version officielle n'est pas crédible. Et vous savez que les dossiers sur l'assassinat du président Kennedy, l'assassinat de son frère Robert Kennedy, le père de Robert Kennedy Jr. et de Martin Luther King sont en train de sortir. Et en ce qui concerne l'assassinat du président Kennedy, aujourd'hui, toutes les pistes conduisent à Israël, c'est une piste qui était déjà extrêmement plausible dans le passé, mais il semble bel et bien que ça soit le Mossad qui ait choisi d'assassiner le président Kennedy. C'est pour ça, d'après Trump, rappelez-vous, il avait confié à un général de ses amis « si tu savais ce qu'il y avait dans ces dossiers, tu comprendrais pourquoi je ne les ai pas fait connaître au monde ». Et toujours est-il qu'il semble qu'on soit à bout touchant de cette affaire également, ce qui est susceptible, évidemment, de créer un tsunami géopolitique. Alors commençons par les auditions devant le CMA américain. Je rappelle que c'est une procédure standard, régulière, et on peut voir assez tôt la vitalité malgré tout de la démocratie américaine. Surtout si on compare les personnalités exceptionnelles qui ont été auditionnées récemment avec les vieilles biques ou les jeunes cons, pour parler français, qu'on trouve actuellement au gouvernement français ou dans nos différents gouvernements d'Europe. Et donc, il est de coutume là-bas que les membres du cabinet, les secrétaires d'État, les responsables d'agences gouvernementales subissent des auditions devant les sénateurs qui, par un vote, confirment les choix du président. Mais évidemment qu'avec une majorité républicaine, aujourd'hui, ils doivent confirmer les choix de Donald Trump. Le premier à avoir été soumis à l'exercice des trois personnalités que je vais vous présenter aujourd'hui est bien entendu Robert Kennedy Jr. Alors vous savez le parti pris positif que j'ai à son égard pour un ensemble de raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un qui connaît extraordinairement bien les dossiers de santé. Il a été un avocat indépendant extrêmement combatif dans des causes environnementales ou sanitaires. Il connaît ses dossiers sur le bout des doigts et puis c'est une personne profondément intègre. Cash Patel, encore lui, nous rappelle que Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, est terrifié quant au fait que Robert Kennedy Jr. puisse exposer son rôle au sein de la Task Force Covid, et notamment le blanc-seing qui a été accordé en quelque sorte à Anthony Fauci et les catastrophes qui s'en sont suivies. D'après Cash Patel, c'est ça l'histoire qu'il faut comprendre derrière l'audition de Robert Kennedy Jr. Et puis un autre commentateur relève Bill Gates et Anthony Fauci demandent bien sûr au Congrès de ne pas confirmer Robert Kennedy Jr. Je me demande pourquoi, se pose-t-il fort ingénument comme question. Mais il faut rappeler, bien sûr, que la position de Robert Kennedy est très très claire. Lui, ce qu'il veut, c'est notamment lever la clause d'impunité qui actuellement protège intégralement les fabricants de vaccins, y compris par rapport à des agissements délictuels ou criminels. Voilà ce qu'il exprimait quelques semaines avant son audition sur un plateau de télévision.
What I would do is I would get rid of that immunity. I would lift the immunity and make them accountable and make them responsible, because that's the only way to ensure the safety of this product. They haven't paid anything with vaccines, because vaccines are immune from liability. So you cannot, no matter how negligent that company is, no matter how reckless they are, no matter how grievous your injury, you can't sue them.
Vous savez bien sûr qu'on l'accuse d'être anti-vax, ce dont il se défend en disant simplement que les vaccins là, doivent être testés comme les autres médicaments et en rappelant que sur les vaccins actuellement mis sur le marché, aucun, absolument aucun, n'a suivi une procédure d'accréditation normale et donc il est absolument impossible en l'état de dire du moindre vaccin sur le marché qu'il est sûr et efficace parce que notamment aucun test contre placebo inerte n'a été réalisé et donc il demande simplement qu'on mette toute la science à plat par rapport à cette question extrêmement importante, surtout quand on connaît le calendrier vaccinal dont les enfants, nos enfants sont la cible dès leur naissance. Et là bien sûr qu'il faut une révision intelligente. Mais ce qui n'implique pas de refuser a priori l'entier des vaccins, peut-être que c'est la conclusion à laquelle on arrivera une fois que toute la science honnête aura été mise sur la table, mais pour l'instant, bien sûr, nous devons nous garder de tout parti pris. Faisons un petit détour par Alexis Haupt et ses clins d'œil fort philosophiques. Il relève l'humanité à un cauchemar Bill Gates. Bill Gates à un cauchemar Kennedy Jr. Bref, les cauchemars de mes cauchemars sont mes rêves. Ainsi, je rêve que Kennedy les fout tous en tôle, en commençant par Bill Gates. Alors, on trouve en ligne, notamment sur le compte Sylvia Miami sur X, la déclaration inaugurale complète de Robert Kennedy Jr., sous-titrée en français « Devant le Sénat ». Il a reconnu « J'ai souvent perturbé le statu quo en posant des questions gênantes. Je ne vais pas m'en excuser. Nous avons d'énormes problèmes de santé dans ce pays auxquels nous devons faire face honnêtement. » Et puis vous savez, vraiment, sa grande analyse et la plus-value qu'il peut apporter dans un rôle politique, c'est sa compréhension de la péjoration gravissime de la santé des États-Unis, et notamment avec l'explosion des maladies chroniques, dont on connaît par ailleurs les principaux facteurs de risque, la malbouffe, la pollution environnementale, le stress, la sédentarité, enfin grosso modo le mode de vie contemporain. Et voilà comment il a résumé cet enjeu. Lorsque mon oncle était président, 2% des enfants américains souffraient d'une maladie chronique. Aujourd'hui, 66% d'entre eux en sont atteints. Nous n'avons rien dépensé pour les maladies chroniques sous l'administration Kennedy. Aujourd'hui, nous dépensons 4 300 milliards de dollars par an. Les données les plus récentes du NIH montrent que 38% des gens sont diabétiques ou prédiabétiques. Le taux d'autisme est passé de 1 sur 10 000 à 1 sur 34 dans la génération de mes enfants. Nous avons assisté à une explosion des maladies auto-immunes et allergiques. Il ne s'agit pas seulement d'un problème économique, ce n'est pas seulement une question de sécurité nationale, il s'agit d'une question spirituelle et d'une question morale. Et il a bien sûr rappelé que ce qu'il voulait, c'était une transparence radicale des données de santé. Il faut savoir qu'actuellement, toute une pseudo-science est produite aux frais du contribuable, mais ensuite est occultée ou censurée pour qu'on ne puisse pas avoir accès aux données et les vérifier de manière indépendante. Voilà ce que rappelle Robert Kennedy.
I approach HHS, as I said before, Senator, is radical transparency. Democrats and Republicans ought to be able to come in and get information that was generated at taxpayer expense that is owned by the American taxpayer. They shouldn't get redacted documents. Public health agencies should be transparent. And if we want Americans to restore trust in the public health agencies, we need transparency.
Alors le débat s'est très vite polarisé avec des attaques insensées de la part notamment de certains démocrates, mais tournant uniquement autour de la question vaccinale et dans cette religion vaccinale actuelle du style « vous allez tuer des enfants en décourageant les parents de les faire vacciner », alors que la réalité c'est qu'aujourd'hui la charge morbide et mortifère qui pèse sur les enfants des États-Unis ont très peu à voir avec les maladies infectieuses dont les vaccins sont censés protéger, mais avec tout un ensemble d'autres caractéristiques. Mais les choses se sont polarisées de manière extrêmement religieuse autour de cette question. Notamment, le sénateur Wyden a passé 17 minutes. Vous pouvez aller voir les enregistrements vidéo en ligne. C'est stupéfiant de voir l'agressivité, la malveillance, la mauvaise foi et le fait que ceux qui ont attaqué Robert Kennedy ne cherchaient pas à avoir un dialogue ouvert pour comprendre quelle était sa position, mais uniquement à le dénigrer, comme l'inénarrable Bernie Sanders, le vieux crypto-socialiste du Vermont, que Robert Kennedy a un petit peu remis à sa place en évoquant les subsides très généreux qu'il touche de l'industrie pharmaceutique.
I'm going to make America healthier than other countries in the world right now.
Will you guarantee do what every other major country does? It's a simple question.
And by the way, Bernie, the problem of corruption is not just in the federal agencies, it's in Congress too. Almost all the members of this panel are accepting, including yourself, are accepting millions of dollars from the pharmaceutical industry.
Protecting their interests. I ran for president like you. I got millions of contributions. They did not come from the executives, not one nickel of PAC money from the pharmaceutical industry. They came from workers.
In 2020, you were the single largest
receiver of pharmaceutical money. Because I had contributions from workers all over this country. Workers.
You were the single...
Not a nickel from corporate PACs.
You were the single largest acceptor of pharmaceutical dollars.
No, from workers in the industry.
1.5 million.
Yeah, out of 200 million. All right, but you have not answered last question.
Alors, on a fait un tout petit peu de fact-checking autour de la défense de Bernie Sanders, qui dit en substance, oui, il y a de l'argent qui venait de l'industrie pharmaceutique, mais uniquement par des ouvriers qui donnaient individuellement des tout petits montants. C'est évidemment faux. Des très très grands dirigeants des principales sociétés pharmaceutiques l'ont arrosé, et effectivement, c'est le parlementaire états-unien qui a touché le plus d'argent de Big Pharma. Est-ce une surprise? Il a défendu le succès extraordinaire des vaccins, entre guillemets, anti-Covid, en disant qu'ils ont sauvé des millions de personnes, mais tous ceux qui savent lire la science savent que les études auxquelles ils se réfèrent sont des modélisations, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune corrélation avec la réalité observable, ça n'est pas empirique, ce sont des données qui sont extrapolées de manière totalement arbitraire, rien ne permet d'arriver à une conclusion pareille, au contraire, les études sérieuses dont on dispose expose montre que les injections en question ont péjoré la vie et la santé des personnes qui les ont reçues. Mais évidemment qu'on est ici à l'intérieur d'un système. Elizabeth Warren, qui l'a également pris à partie de manière extrêmement violente, elle a essayé de lui faire jurer qu'il n'infligerait pas d'amende aux sociétés pharmaceutiques. Et puis elle a ensuite dit publiquement qu'elle craignait que l'industrie des vaccins ne fasse faillite. Alors qu'elle-même, bien sûr, a reçu des millions de dollars de l'industrie des vaccins. Et donc, vous la voyez ici, dans un petit dessin de presse, disant à Robert Kennedy « Tu ne seras jamais confirmé », mais évidemment qu'elle n'est que la marionnette de Big Pharma. Si vous allez sur Open Secrets, qui est un signe en ligne, ben effectivement, vous pouvez voir qui a touché combien, notamment de l'industrie pharmaceutique. Et puis, surprise, surprise, les parlementaires les plus agressifs envers Robert Kennedy sont ceux qui ont reçu le plus d'argent de la part de l'industrie. Alors, bien sûr, Robert Kennedy, lui, a rappelé que l'idée de consensus scientifique et qu'il fallait se soumettre aux dogmes prédominants était absurde. Il a rappelé notamment le scandale de la thalidomide, vous vous souvenez, ce médicament qui était prescrit pendant la grossesse aux femmes, soi-disant, pour les aider avec les nausées qu'elles pouvaient ressentir et qui a conduit à des malformations gravissimes, des milliers et des milliers d'enfants qui ont été touchés. Eh bien, une lanceuse d'alerte à l'époque s'était opposée au consensus scientifique et avait été récompensée par le président John Kennedy pour avoir osé parler contre le consensus de l'époque. Un consensus, c'est toujours un conformisme social basé également sur des liens d'intérêt. Il faut remettre tout cela à plat. Et puis, le sénateur Rand Paul du Tennessee, qui est vraiment un des très très respectables parlementaires américains et qui connaît fort bien le domaine de la santé, lui dit aussi, écoutez, il y a cette épidémie d'autisme et de maladies chroniques dont on ne connaît pas la cause. On ne sait pas si les vaccins sont impliqués ou non, mais à ce stade, ne sachant pas ce qu'il en est, nous ne pouvons tout simplement pas fermer la porte d'emblée et dire qu'il est hérétique de se poser des questions. Au moins, avec Robert Kennedy Jr., nous aurons des réponses et le travail sera fait de manière honnête. Et Robert Kennedy a conclu en disant « Il n'y a pas d'enfants républicains ou d'enfants démocrates, il n'y a que des enfants. » Et aujourd'hui, 66% d'entre eux sont abîmés. Et tous ces démocrates, je rappelle que lui-même était démocrate à l'origine, comme d'ailleurs Tulsi Gabbard, comme d'ailleurs Elon Musk, comme d'ailleurs Donald Trump, c'est tous des gens qui étaient démocrates au départ et qui sont devenus républicains étant donné la corruption effrénée qui a lieu dans le camp démocrate. Mais il dit tous ces gens qui étaient démocrates comme je l'étais et qui étaient d'accord avec moi aujourd'hui s'opposent à moi pour des raisons partisanes alors qu'ils savent très bien que j'ai toujours œuvré de manière éthique. Toujours pour protéger la population, c'est uniquement parce que Donald Trump m'accorde sa confiance que je suis aujourd'hui l'objet de toutes ces attaques. Florian Philippot a judicieusement commenté en relevant que Robert Kennedy est vraiment la bête noire du système. Ils se coalisent tous, comme rarement, contre lui pour qu'il ne devienne pas ministre de la Santé. Ils sont en panique. Car il les a tous assaisonnés sur la corruption, sur Big Pharma, sur les trafics sexuels et les enfants disparus. Une bombe a explosé au Sénat américain. La révolution ira-t-elle jusqu'au bout? Et puis, Robert Kennedy s'est exprimé sur la question que lui a ingénument posée un sénateur. Êtes-vous un théoricien du complot? La ficelle devient quand même un peu grosse à force, mais voilà la manière dont il a répondu.
I got a real quick question for you. Are you a conspiracy theorist?
That is a pejorative, Senator, that's applied to me, mainly to keep me from asking difficult questions of powerful interest. I was told that I was a conspiracy theorist. That label was applied to me because I said that the vaccines, the COVID vaccine, didn't prevent transmission and it wouldn't prevent infection. When the government was telling people, Americans, that it would. I was saying that because I was looking at the monkey studies in May of 2020. I was called a conspiracy, now everybody admits it. I was called a conspiracy theorist because I said red dye caused cancer. And now FDA has acknowledged that and banned it. I was called a conspiracy theorist because I said fluoride lowered IQ. Last week, JAMA published a meta review of 87 studies saying that there's a direct inverse correlation between IQ loss.
All right, so I'm going to assume
I can go on for about a week.
Partageons encore les paroles de Asim Malhotra, qui est donc ce cardiologue britannique qui était pro-vaccin anti-Covid à l'origine. Ses deux parents étaient injectés et sont décédés peu après. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « J'ai rencontré énormément de personnalités politiques pendant ma carrière. J'ai rencontré beaucoup de dirigeants du domaine de la santé publique et je sais sentir leur essence en tant qu'individu. Personne, à mon avis, n'approche de Robert Kennedy en termes de quelqu'un qui est réellement concerné par la santé publique et la santé de la communauté et non pas ses intérêts personnels. » Alors relevons au passage que la presse française mainstream, la presse collabo, a réagi comme le font des collabos, avec notamment un pseudo-journal lopiste qui s'appelle Julien Belvert, qui a osé dire que l'audition de Robert Kennedy avait été catastrophique, alors que franchement elle a été tout sauf ça, mettant en question son aptitude. Et franchement, je suis d'accord avec Verity, cette manipulation de l'information est vraiment totalement insupportable à la longue. Encore un reportage à charge sur France 2, où bien sûr, tous les clichés habituels ont été dégainés. Mais comme l'indiquent ceux qui savent lire correctement la situation, la vérité, c'est que Robert Kennedy Jr. est le pire cauchemar de Big Pharma. Et puis Tulsi Gabbard, que nous allons aborder maintenant, elle a osé mettre en question la surveillance d'État totalitaire. C'est pour ça que les démocrates sont en panique. Alors Tulsi Gabbard, c'est une colonelle qui était députée de Hawaï précédemment dans le camp démocrate et qui a rallié le camp Trump. Qui, elle aussi, ose dire les choses comme elles sont, une personne courageuse, franche, directe. Voilà, par exemple, la déclaration qui l'a placée sur la liste de surveillance des terroristes nationaux par le département de la sécurité intérieure de Joe Biden. Les décisions de politique étrangère sont prises par des personnes non élues dans le complexe militaro-industriel qui profite du fait que nous soyons dans un état de guerre constant et de l'état de sécurité nationale qui a plus de pouvoir pour saper nos libertés lorsque nous sommes dans un état de guerre. Kamala Harris n'a pas la force de résister au complexe militaro-industriel. John Bolton, un douteux ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité, lui a clairement admis que l'establishment craignait Tulsi Gabbard à cause de ses positions sur les biolabs financés par les États-Unis en Ukraine. Elle connaît le grand secret. Et voilà, en effet, ce qu'elle expliquait il y a quelques jours à ce sujet. Voilà les faits indiscutables. Il y a de 25 à 30 laboratoires biomilitaires financés par les États-Unis en Ukraine. Selon les autorités américaines, elles conduisent des recherches sur des pathogènes extrêmement dangereux. L'Ukraine est une zone de guerre extrêmement active, avec des tirs d'artillerie, des bombardements, et même dans le meilleur des circonstances, la sécurité de ces laboratoires peut être compromise très rapidement, et ils risquent de relâcher des pathogènes mortels. Et les agents infectieux, comme le Covid, ne connaissent pas de frontières. Et si la sécurité d'un de ces laboratoires devrait être compromise, cela pourrait causer des souffrances et de la mort à travers le monde entier. Donc, pour protéger la population américaine, la population européenne et du monde entier, ces laboratoires doivent être fermés instantanément et les pathogènes qui ont été développés doivent être détruits. Au lieu d'essayer de camoufler cette réalité comme le gouvernement Biden-Harris l'a fait, il faut ouvrir des négociations avec la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, les Russes, et faire en sorte que ces agents pathogènes soient détruits. En addition avec tout ça, les États-Unis financent plus de 300 laboratoires biomilitaires à travers le monde qui s'engagent dans des recherches extrêmement dangereuses, similaires à celles qui ont eu lieu dans le laboratoire de Wuhan, d'où le Covid-19 est probablement parti. Il faut savoir que ces laboratoires sont profondément vulnérables et que tout devrait avoir été fermé il y a déjà 2 ans, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'est pas une question politique partisane. L'administration et le Congrès doivent agir maintenant pour la sécurité et la santé de chaque Américain et de chaque personne à la surface de cette terre. Elle est également revenue au cours de son audition sur les graves échecs, mais pire que ça, les catastrophes déclenchées par l'administration et les différents gouvernements américains. Je vous passe un extrait traduit par ADNM, ou plus exactement sous-titré, de sa déclaration liminaire.
The most obvious example of one of these failures is our invasion of Iraq based upon a total fabrication or a complete failure of intelligence. This disastrous decision led to the deaths of tens of thousands of American soldiers, millions of people in the Middle East, mass migration, destabilization and undermining of the security and stability of our European allies, the rise of ISIS, strengthening of Al-Qaeda and other Islamist jihadist groups, and strengthening Iran. Here are just a few other examples. The American people elected Donald Trump as their president not once but twice. And yet the FBI and intelligence agencies were politicized by his opponents to undermine his presidency and falsely portray him as a puppet of Putin. Title I of FISA was used illegally to obtain a warrant to spy on Trump campaign advisor Carter Page, using a Clinton campaign-funded false dossier as their so-called evidence. Biden campaign advisor Tony Blinken was the impetus for the 51 former senior intelligence officials' letter dismissing Hunter Biden's laptop as disinformation specifically to help Biden win the election. Former DNI James Clapper lied to this committee in 2013, denying the existence of programs that facilitated the mass collection of millions of Americans' phone and internet records, yet was never held accountable. Under John Brennan's leadership, the CIA abused its power to spy on Congress, to dodge oversight, lied about doing it until he was caught, and yet has never been held responsible. Under Biden, the FBI abused its power for political reasons to try to surveil Catholics who attend traditional Latin Mass, labeling them as quote-unquote radical traditionalist Catholics. Personally, just 24 hours after I criticized Kamala Harris and her nomination, I was placed on a secret domestic terror watch list called Quiet Skies. Sadly, there are more examples. The bottom line is this: this must end.
Elle-même, qui a servi dans les forces armées américaines, a rappelé comment Barack Obama et la CIA avaient financé ISIS, Daesh et Al-Qaïda, notamment pour faire tomber le régime syrien, en rappelant qu'aujourd'hui même, nous avons un extrémiste islamiste qui dirige la Syrie, qui a dansé dans les rues pour célébrer les attentats du 11 septembre, qui a gouverné Idlib avec des extrémistes islamistes et qui a déjà commencé à persécuter, tuer et arrêter des minorités religieuses comme les chrétiens en Syrie. Je ne comprends pas pourquoi cela est acceptable pour qui que ce soit. Donc oui, elle a mis les pieds dans le plat, elle dit les choses comme elles sont, et notamment en rappelant que Al-Qaïda, ISIS et Daesh sont des créatures des États-Unis et d'Israël, ce qui évidemment la fout un peu mal par rapport à au jeu et à l'hypocrisie géopolitique, mais en même temps ne fait que correspondre à la réalité. Et vraiment, son audition a été remarquable, elle a été très assertive, très documentée, elle a su dire les choses avec énormément de clarté, et puis se défendre d'accusations assez grotesques. On l'a accusée d'être la marionnette de Trump, puis de Poutine, puis d'Assad, puis de Modi, puis d'un gourou, puis de ceci et de cela. Elle a répondu qu'en fait, ce qui irritait ceux qui l'accusaient de tout cela, c'était qu'elle refusait d'être leur marionnette à eux. Ensuite, c'est Kash Patel qui a pris le relais. Kash Patel qui a occupé une position de procureur au sein du département de la justice et qui notamment a enquêté sur la fausse accusation de collusion entre Trump et Poutine lors de la première élection. Et puis effectivement, ça a été un cours magistral de vérité avec le sénateur du Texas, Ted Cruz. Ils ont fait voler en éclats, dans un échange de questions, le récit dominant au sujet des événements du 6 janvier, la fausse prise d'assaut du Capitole, en établissant, mais ce sont des faits qui sont connus, toute personne qui vraiment veut savoir ce qu'il en est peut accéder très facilement à cette information, que la présidente de l'Assemblée de l'époque, Nancy Pelosi, avait refusé le déploiement de la garde nationale proposée par Donald Trump pour sécuriser le Capitole. Elle a contrôlé la police du Capitole sans réussir à sécuriser le bâtiment. Elle a dissimulé des preuves au public et à la commission d'enquête. Et elle a créé un récit d'enfumage, un récit faux pour blâmer Trump. Il voulait le chaos. Il voulait un simulacre de procès. Mais tout ça est en train de sortir au grand jour. Et puis, une interpellation, bien sûr, autour de la liste de Jeffrey Epstein. Cash Patel a très souvent exprimé sa conviction qu'il fallait rendre la liste de tous ceux qui ont commis des crimes pédocriminels dans le système Epstein, qu'il fallait rendre cette liste publique. La sénatrice Blackburn lui a demandé « Allez-vous travailler avec moi ?»
I want to talk to you about the Epstein case. I have worked on this for years. Trying to get those records of who flew on Epstein's plane and who helped him build this international human trafficking, sex trafficking ring. Now, earlier I urged then Chairman Durbin to subpoena those records, and I ended up being blocked by Senator Durbin and Christopher Wray. They stonewalled on this. And I know that breaking up these trafficking rings is important to President Trump. So will you work with me on this issue so we know who worked with Jeffrey Epstein in building these sex trafficking rings?
Absolutely, Senator. Child sex trafficking has no place in the United States of America, and I will do everything, if confirmed as FBI director, to make sure the American public knows the full weight of what happened in the past and how we are going to countermand missing children and exploited children going forward.
Thank you for that.
Ce qui est fascinant, c'est que le sénateur Durbin, qui était à la tête du comité judiciaire du Sénat et à qui la sénatrice Blackburn avait soumis à réitérées reprises la demande qu'elle vient de répéter devant Cash Patel, a osé prétendre, lors de l'audition de Patel, qu'il n'avait jamais eu vent d'une telle demande de la sénatrice ou qu'il ne s'en souvenait pas. Eh ben oui, il y a aussi des amnésies commodes chez certains représentants américains. Et puis, nouvelle... Retour sur le devant de la scène des théories du complot, vu que Cash Patel, lui, s'est démené pour montrer que des accusations étaient complotistes, mais celles portées par l'État profond et le camp démocrate. Et en l'occurrence, c'est le sénateur John Kennedy qui est arrivé à une conclusion qui devrait quand même aujourd'hui devenir la règle de compréhension de ce qu'on évoque.
If you're not ticking off some people, you're not doing your job right.
My colleague... And friend Senator Durbin called you a conspiracy theorist. You remember that?
I do, Senator.
You were instrumental in revealing that the Trump-Russia election collusion hoax was a hoax, weren't you?
Yes, sir. I was a lead investigator.
Sounds to me like we need to get some new conspiracy theories because all the old ones turned out to be true.
Facts matter, Senator.
Yeah. I mean, conspiracy theorists are up something like 37 to nothing.
Et oui, les soi-disant théoriciens du complot que nous sommes menons 37-0 dans la bataille contre les fact-checkers, ça effectivement nous sommes là. Mais il faut savoir que les démocrates continuent de retarder le vote de confirmation des différentes personnalités que je viens de vous présenter parce qu'ils détestent Trump. Au même nombre de jours après la nomination, Obama avait déjà 22 personnalités confirmées, alors qu'ici, il n'y en a que 8. Pourtant, la victoire du président Trump a été écrasante, notamment il a remporté les 7 swing states qui sont traditionnellement indécis entre l'un et l'autre camp, le vote populaire, le Sénat, la Chambre des représentants, le vote du peuple américain a été parfaitement clair. Et donc, à cette obstruction de la part des démocrates, Cash Patel fait remarquer, c'est une disgrâce. Et cela pose vraiment la question de savoir qui dans le camp républicain serait tenté de refuser les candidatures, par qui sont-ils possédés, quels sont les conflits d'intérêts ou la corruption à laquelle ils sont soumis. Il faut savoir pour que ces choses-là puissent être exposées au grand jour. Et bien sûr que ce qui pose problème, c'est l'intégrité le niveau d'intégrité des personnalités en question, mais aussi, je rappelle une fois de plus, qu'elles viennent du camp démocrate. Et que si elles avaient pu trouver du côté démocrate la même intégrité que leur offre aujourd'hui contre toute attente Donald Trump, eh bien, il est plus que probable qu'elles y seraient restées. Et donc, c'est bel et bien un changement de paradigme à l'intérieur du système politique américain. Toujours est-il qu'il semble que seul le très véreux sénateur Mitch McConnell puisse être tenté de voter contre Robert Kennedy dans le camp républicain. Même chose, il semble que Tulsi Gabbard devrait être approuvée à deux exceptions près. Et donc normalement, les confirmations devraient être obtenues, mais il faut toujours rester prudent. Et puis, savoir également que des sources autorisées, comme on dit, insiders, ont révélé que le président Trump est extrêmement vigilant et notamment en essayant de veiller à ce qu'il n'y ait aucun traître du côté républicain en disant s'il touche à Tulsi ou à Robert Kennedy, alors ça sera la guerre. Il est hors de question que des parlementaires corrompus mettent en échec le plan de Donald Trump et lui s'appuie sur ses personnalités pour pouvoir le mener à bien. Alors ceci posé, et vous voyez que ça bouge à fond, abordons l'émission de Candace Owens sur Brigitte Macron. Ça n'est pas la première, elle a déjà abordé le sujet, elle a déjà partagé sa conviction que Brigitte est un homme devenu femme et que toute l'histoire familiale du couple Macron est totalement bidouillée, a été complètement réarrangée, et que cela a soumis la France à du chantage ou des pressions d'une manière que la population française doit connaître. Mais donc, elle a annoncé une série d'émissions en affirmant avoir la preuve de ce qu'elle avance. Et tout le monde attendait cette première émission du vendredi 31 janvier avec beaucoup d'impatience, et notamment dans l'espoir que les preuves seraient d'ores et déjà dévoilées. Alors, Candace Owens avait attaqué très fort, puisqu'elle avait laissé ce commentaire quelques heures avant. « Malgré toute la censure et les persécutions qui se déroulent en France, nous sommes déjà une tendance montante. Les citoyens français ont été enfumés depuis des années par leurs médias. Il est temps que cela prenne fin, et cela prend fin aujourd'hui. » Et puis, quelques minutes plus tard, elle a encore laissé un commentaire pas piqué des verres, en disant « Nous allons commencer à éveiller le monde » à la réalité des procédés sadiques de Brigitte et de son animal de compagnie qu'elle a élevé, Emmanuel Macron, plus les structures de pouvoir qui les protègent tous les deux. Donc ce sont quand même des manières de formuler les choses qui sont extraordinairement agressives, et la question que tout le monde se pose, c'est a-t-elle réellement les éléments en main qu'elle dit avoir? Est-ce que cela va vraiment être la fin d'un extraordinaire canular? Mais plus que ça, d'une situation complètement surréaliste, ou bien se vendent-elles sans avoir quoi que ce soit en stock? Alors, il faut savoir encore que une heure avant le début de l'émission, son site sécurisé a été l'objet d'une attaque informatique massive pilotée depuis la France. Alors elle dit « on en saura plus ». Mais si les services français ont été dans le coup, cela poserait une sacrée question institutionnelle. Toujours est-il que l'épisode de 40 minutes a été diffusé. Il avait totalisé, à la fin de la journée de samedi, 1,6 million de vues en ligne. Et que peut-on en dire? Bien sûr que tous ceux qui s'attendaient à entendre ou trouver la confirmation définitive seront restés sur leur faim et potentiellement auront été déçus. Maintenant, Candace Owens a bien dit, c'est l'introduction, c'est le module introductif d'une série dans laquelle je vais vous déballer tous les éléments de preuve à disposition, et elle prétend les avoir. Par contre, évidemment que cela a de quoi nourrir le scepticisme, voire la déception, voire le persiflage. Alors, je vais vous emmener malgré tout dans le contenu de cette émission en cherchant précisément à le mettre en perspective. Myriam Panamba a judicieusement commenté peu de révélations ce soir, mais une introduction forte. Candace Owens parle essentiellement de pédophilie et d'inceste. La suite sur sa chaîne YouTube lundi. Et effectivement, dans ce module introductif, Candace a pris quelques éléments que je vais développer dans un instant, mais d'une manière effectivement rigoureuse et détaillée. Elle a d'ailleurs dit « Si les Macron veulent me poursuivre, ils sont les bienvenus, mais il faut savoir que la justice américaine ne sera pas aux bottes comme la justice française ». D'un côté, on pourrait se dire, en ce qui concerne les concernés, ben ouf, il n'y a rien eu de très très dommageable, mais il importe peut-être de surmonter cette première réaction et de se demander, avec Éric Forac du Courrier des Stratèges, hein, Macron peut-il résister au bazooka Owens, actionné selon toute vraisemblance par Donald Trump ? Depuis plusieurs jours, commente Éric Forac, les réseaux sociaux étaient en haleine en attendant les révélations de la journaliste proche de Trump sur l'affaire Brigitte évoquée de longue date dans le courrier. Après de lourdes attaques informatiques que la journaliste attribue à la France, destinées à bloquer la diffusion de ces informations, la première salve est partie. Candace Owens annonce feuilletonner sa série et s'est pas piqué des hannetons. Brigitte est un homme, Macron peut-il résister ? Alors, ce qu'elle a décrit, Candace Owens, dans ce premier épisode, c'est au fond la situation aux anglophones qui ne connaissent pas la situation française. Et donc, elle a en quelque sorte posé le décor, avec malgré tout des éléments assez forts, notamment le fait qu'il arrive de sacrés bisbilles, y compris des morts inopinées à certains journalistes qui enquêtent sur cette affaire, ou des personnes qui disent avoir des révélations, comme Isabelle Ferreira, trouvée noyée à la veille de révélations qu'elle s'apprêtait à faire, ou Maryse France Pizier, nous y reviendrons dans un moment, noyée alors qu'elle allait révéler la pédophilie d'Olivier Duhamel, un des soutiens du couple Macron. Donc effectivement, premier élément malgré tout troublant, c'est que tous ceux qui enquêtent sur cette affaire voient leur vie voler en éclats, mort suspecte, procès, pression fiscale, intimidation. Pourtant, aucun procès en diffamation contre Xavier Poussard, le principal journaliste, auteur des révélations, qu'il a bien sûr reprise de Natacha Ray et du dossier Précibus, mais enfin, qu'il a poussé plus avant avec une rigueur journalistique particulière. Et donc, si c'est un mensonge, pourquoi ne pas le poursuivre ? Et puis, les manœuvres d'intimidation déclenchées par le couple Macron, y compris contre Candace Owens, avec l'envoi d'un courrier d'avocat, sont tout à fait étonnantes. S'ils n'ont rien à se reprocher et qu'il n'y a absolument rien d'anormal dans leur situation, on ne voit pas pourquoi ils seraient en mode panique, comme ils le sont de toute évidence depuis un certain nombre de mois. Il paraît évident que Candace Owens a eu accès au fameux dossier Macron détenu par Donald Trump. On se souvient d'un raid du FBI pour récupérer ce dossier que Donald Trump avait emporté avec lui. Et puis effectivement, ce qui est tout à fait frappant dans cette affaire est la chose suivante. Une personne de mes connaissances chère vivant en Australie a suivi à distance, elle est australienne, pas française exilée, l'émission de Candace Owens et en est sortie mais dégoûtée, en disant « mais ça m'a donné la nausée ». La manière dont le couple Macron fricote avec les milieux pédocriminels est juste insoutenable. Et ce qui est frappant, c'est que nous qui vivons dans le bocal français, en quelque sorte, nous nous sommes tellement accoutumés à cette réalité pédocriminelle que quand une journaliste comme Candace ne fait que rappeler un certain nombre de choses, on est presque déçu en se disant « ah, il n'y a que ça ». On attendait plus, on voulait mieux. Mais enfin, elle a quand même rappelé à quel point il existe autour du couple présidentiel, mais plus encore dans l'ensemble des soi-disant élites de la société française, une extraordinaire complicité avec la pédocriminalité la plus crasse. Alors, le scandale Epstein explose aux États-Unis. Complément d'enquête, tiens, hors de propos, a sorti une émission à ce sujet. Mais enfin, complément d'enquête, c'est vraiment le damage control. Hein. C'est le contraire du journaliste d'investigation. La femme de Epstein était française, Ghislaine Maxwell, son rabatteur aussi. L'élite pédophile a défilé à Paris. Et puis l'enquête a été stoppée en plein vol par le ministre de la Justice de Macron. Bon. Alors, beaucoup de gens se gaussent en disant bah, « finalement, Candace n'a rien », mais je rejoins ce commentateur qui lui indique à ceux qui tournent en dérision le travail de Candace en disant « mais je crois que vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Le scandale qui est en train de secouer les fondations de la France, ça ne concerne pas juste l'instable et le modifié, on voit à qui il pense. Non, vous savez comme moi comment fonctionne la politique, tout le monde sait tout sur tout le monde, les politiques savent tous ». Les sales petits secrets, c'est un monde de salopes, et les journalistes, eux aussi, savent, ainsi que la justice, toutes les plus hautes instances sont mouillées jusqu'au cou, c'est tout un système nauséabond qui se révèle sous nos yeux, tous complices. Alors effectivement, l'entame de Candace avait l'air assez soft en apparence, mais de manière très méticuleuse, elle a repris des éléments de signification absolument essentiels, et notamment le fait que, dans son premier portrait présidentiel, il y avait posé sur la table les nourritures terrestres d'André Gide, dont il a dit « Mes bréviaires sont les nourritures terrestres et notes à petit passage, Gide me montre le chemin qui conduit du cérébral à une sensualité débordante. » Oui, seulement, voilà, Gide était un pédéraste. C'était un adulte qui sodomisait des petits garçons. Et donc, le choix de ce livre dans lequel Gide raconte son tourisme sexuel, notamment en Tunisie, où il entretenait des relations avec des garçons âgés de 10 à 13 ans, tout en disant que pour lui, ça a été l'initiation à une sensualité débordante. Vous voyez, comme toujours, on peut faire semblant de ne pas voir, on peut faire semblant de ne pas comprendre, mais on est au cœur de ce motif caractéristique de la perversité, je le redis une fois de plus. Et Candace, d'ailleurs, est revenu sur cette fameuse scène, dans les deux sens du terme, de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques, où il y avait eu une singerie, un pastiche moqueur de la scène avec des personnes à la sexualité débridée, grand bien leur en face. Et vous vous souvenez du processus. Dans un premier temps, les auteurs en question et les journalistes avaient célébré le pastiche de la scène. Et quand des gens s'étaient offusqués, ils avaient d'ailleurs revendiqué un droit au blasphème. Regardez, vous êtes des bigots, mais on a le droit de blasphémer. Et on le fait en conscience. Et puis, droit derrière, une verbalisation était venue. Non, ça n'a rien à voir avec la scène, c'est un tableau de Dionysos. Parce qu'on avait trouvé dans un malheureux musée de Dijon un tableau de Dionysos, qui lui-même était une transposition de la scène dans un monde protestant, au sein duquel il était interdit de représenter Jesus et ses apôtres. Donc, voyez, là, on était au cœur du motif, et Candace a bien fait de revenir là-dessus, qui est cette interdiction de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez. Donc, quand Macron dit « les nourritures terrestres », récits pédérastiques d'un écrivain pédéraste, pédocriminel, ont été mon initiation à une sensualité débordante, tout le monde est censé ne pas entendre, ne pas voir, ne pas comprendre. Ensuite, Candace a enchaîné avec ce fameux créateur qui notamment a été choisi pour produire des éléments mobiliers de l'Élysée redécorés par Brigitte Macron. Il était entouré en permanence d'une cour de jeunes adolescents qu'il présentait comme ses filleuls et ses neveux, jusqu'au moment où plainte pour viol a été déposée contre lui. Il a violé plusieurs des jeunes éphèbes qui l'entouraient, et donc le tapis en question a dû finalement être retiré de l'Élysée. Et puis Candace est bien sûr revenu sur l'histoire Olivier Duhamel, donc ce président du siècle à Paris, ce cercle prestigieux des élites, politologue, éditorialiste dans la presse, et qui a violé pendant des années son beau-fils, âgé alors de 13 ou 14 ans. La sœur jumelle de la victime en a fait le récit, bien sûr, dans un livre. Et on peut se pencher à travers la Familia Grande sur les mœurs et la dépravation de ce milieu, des familles Kouchner, Pizier et Duhamel, avec au passage la mort plus que suspecte et potentiellement l'assassinat de Marie-France Pizier. Et les commentateurs soulignent que ces viols d'Olivier Duhamel étaient parfaitement connus du milieu médiatico-politique. Donc depuis 12 ans, journaux, radio, télé, mais aussi Sciences Po et Le Siècle, salariaient en toute connaissance de cause un violeur pédophile incestueux. Voilà la réalité des élites françaises aujourd'hui. La liste des proches du pédocriminel Duhamel est impressionnante. Macron, Hollande, Elisabeth Guicou, DSK, Anne Sinclair, les DG de Sciences Po, des grands patrons, des hauts fonctionnaires, tout le monde de la presse. Et puis, je vous renvoie effectivement au mystère de la mort de Marie-France Pisier qui s'apprêtait à révéler cela. Et au fond, ça n'est pas que des cas particuliers. C'est ça qui est important à comprendre et c'est pour ça que je pense que l'introduction de Candace était tout à fait justifiée. Ça existe dans à peu près tous les pays. On sait par exemple qu'un des meilleurs amis du roi Charles III d'Angleterre, à l'époque où il était le prince Charles, était Jimmy Savile, un présentateur d'émissions musicales à la BBC, espèce de star dans son pays, qui était un pédocriminel de la pire espèce. Il a violé des centaines d'enfants, certains âgés de 2 ou 3 ans. Et, comble de la monstruosité, il finançait, soi-disant par philanthropie, des hôpitaux pour enfants, et il se rendait la nuit dans ces hôpitaux pour violer les enfants grabataires au su de toutes les équipes soignantes. Et parce qu'il était ami du prince Charles, personne ne réagissait. Parce qu'il était Jimmy Savile, personne ne réagissait. Donc si on devait faire une émission sur la pédocriminalité britannique, vous voyez, il faudrait commencer par planter le décor. Et c'est exactement ce que Candace a fait ici. Et il y a tout autour du couple Macron des milieux qui sont profondément compromis avec la pédocriminalité, dont Jean-Marc Borello, un ami de Macron, un des cofondateurs du parti politique de Macron, et qui est impliqué dans tout un ensemble de structures, notamment d'aide et d'accueil pour enfants et mineurs en difficulté, où il ne cesse d'y avoir des révélations sur des scandales pédocriminels. Tout récemment encore, révélé par Maître d'Angléan, l'avocat de Natacha Ray, près de Tours, un directeur de foyer pour enfants mis en examen pour détention d'images pédopornographiques et viol de mineurs. Un centre du groupe SOS de Jean-Marc Borello, un ami de Macron. Bien sûr, l'omerta scandaleuse dans la presse de gauche, hein, un journaliste de Libération, de Radio France, envoyé spécial, condamné à 20 ans de prison pour 700 viols et des actes de torture et de barbarie, eh bien, omerta de la presse de gauche. Et puis bien sûr, ces personnalités hein, qui ont squatté les strapontins du pouvoir pendant toute leur vie pour ceux qui sont morts ou qui le font encore pour ceux qui sont en vie, et avec des citations que je ne lirai même pas tellement elles me donnent la nausée, tellement elles me révoltent, de Frédéric Mitterrand, de Daniel Cohn-Bendit, de Gabriel Matzneff, bien sûr, de Michel Ponac, de Jack Lang, et tous ces gens qui devraient être en tôle, étant donné la gravité de ce à quoi ils se sont livrés, qui devraient être mis au banc de la société, étant donné que ce sont des prédateurs sexuels sur des enfants, eh bien au contraire, ont été mis en avant dans tous les ors de la République, jouis de rentes de situation comme si cela ne posait aucun problème. Et oui, il y a en France aujourd'hui un pédoland, il y a une pédocratie. Tout le monde est au courant, tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre, que ça soit par participation active ou du fait de se taire. Et donc, c'est bien ce décor qui a été planté par Candace Owens, en sachant que le prochain épisode, lundi soir, avec Xavier Poussard, le 3 février, prend d'ores et déjà des proportions affolantes. Tucker Carlson a déjà félicité Candace. Apparemment, Elon Musk va lui aussi retweeter et faire connaître cet épisode. Ça vise les 80 millions, 90 millions de vues à l'heure. Ça n'est que le début. On verra ce qu'elle a en stock. Mais étant donné l'assurance dont elle fait preuve, je ne donnerai pas cher de la peau d'Emmanuel et Brigitte Macron, tout en sachant que on peut se tromper, il faut rester prudent, il faut demander à voir, mais en tout cas, tous ceux qui ont été déçus par le module introductif doivent peut-être juste faire preuve d'un peu de patience. Nous verrons très rapidement ce qu'il en est. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir notre effort à travers une donation du montant de votre choix ou un abonnement à partir de 1 euro par mois, et je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle émission.